Maintenant que nous savons ce que c'est qu'un réveil, que nous savons ce qui provoque un réveil, que nous en connaissons les manifestations, nous allons poursuivre avec le réveil sous Josaphat. La lecture sera assez longue, mais c'est nécessaire. En 2 Chroniques 17, la vie d'Asa couvre 3 chapitres. Quatre chapitres. 17. Et Josaphat, son fils, le fils d'Asa, régna sa place. Et il se fortifia contre Israël et mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et mit des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm, qu'Asa, son père, avait prises. Et l'Éternel fut avec Josaphat, car il marcha dans les premières voies de David, son père, et ne rechercha point les Baals, mais il rechercha le Dieu de son père, et marcha dans ses commandements, non comme faisait Israël. Et l'Éternel affermit le royaume dans sa main. Et tout Juda fit des présents à Josaphat, il eut beaucoup de richesses et de gloire. Et il prit courage dans les voies de l'Éternel. Et de plus, il ôta de Juda les hauts lieux et les achères. Et la troisième année de son règne, il envoya ses chefs. La suite montre. Oui. Il envoya ses chefs Ben-Haïl et Abdias et Zacharie et Nathanaël et Miché pour enseigner dans les villes de Juda. Et avec eux les Lévites, Shemaïa, Netania, Zébadia et Azaël et Shemiramoth et Jonathan et Adonijah et Tobija et Tob-Adonijah, Lévites et avec eux Elishama et Joram, sacrificateurs. Et ils enseignèrent en Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Et ils firent le tour de toutes les villes de Juda, et ils enseignèrent parmi le peuple. Et la frayeur de l'Éternel fut sur tous les royaumes des pays qui étaient autour de Juda, et ils ne firent pas la guerre à Josaphat. Il y eut des Philistins qui apportèrent à Josaphat des présents et de l'argent comme tribu, et les Arabes aussi lui amenèrent du menu bétail, 7 700 béliers et 7 700 boucs. Et Josaphat alla grandissant jusqu'à un plus haut degré. Et il bâtit en Juda des châteaux et des villes d'entrepôts. Il eut beaucoup de travail dans les villes de Juda. Et des hommes de guerre forts et vaillants dans Jérusalem. Chapitre 18. Et Josaphat eut beaucoup de richesses et de gloire, et il s'allia par mariage avec Akab. Et au bout de quelques années, il descendit vers Akab à Samarie, et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui du menu et du gros bétail en abondance. Et il le persuada de monter contre Ramoth de Galaad. Et Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, « Viens, roi Juda, viens avec moi à Ramoth de Galaad. » Il lui dit, « Moi, je suis comme toi, mon peuple, et comme ton peuple, et je serai avec toi dans la guerre. » Et Josaphat dit au roi d'Israël, « Enquière-toi aujourd'hui, je te prie, de la parole de l'Éternel. » Et le roi d'Israël rassembla les prophètes, 400 hommes, et leur dit, « Irons-nous à la guerre contre Ramoth de Galaad, ou nous en abstiendrai-je ? » Et ils dirent, « Monte, et Dieu la livrera en la main du roi. » Et Josaphat dit, « N'a-t-il pas encore un prophète de l'Éternel pour que nous nous enquérions auprès de lui ?» Et le roi d'Israël dit à Josaphat, il y a encore un homme pour consulter l'Éternel par lui, mais je le hais, car il ne prophétise pas du bien à mon égard, mais toujours du mal. C'est Miché, fils de Jimla. Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais promptement venir Miché, fils de Jimla. Et le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leur robe, et ils étaient assis sur une place ouverte à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Et Sédécias, fils de Caana, se fit des cornes de fer et dit, ainsi dit l'Éternel, avec celle-ci tu heurteras les Syriens jusqu'à les exterminer. Et tous les prophètes prophétisaient de même, disant, monte à Ramoth de Gala et prospère, et l'Éternel les livrera en la main du roi. Et le messager qui était allé pour appeler Miché, lui parla, disant, voici les paroles des prophètes, d'une seule bouche ils annoncent du bien au roi, que ta parole donc soit, je te prie, comme celle de l'un d'eux, et annonce du bien. Mais Miché dit, l'Éternel est vivant, que ce que mon Dieu dira, je l'annoncerai. Et il vint vers le roi. Et le roi lui dit, Miché, irons-nous à la guerre à Ramoth de Gala, ou nous en abstiendrons-je? Et il dit, montez et prospérez, ils seront livrés entre vos mains. Et le roi lui dit, combien de fois t'adjurerai-je de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Et Miché dit, j'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes comme un troupeau qui n'a pas de berger. Et l'Éternel a dit, ceux-ci n'ont pas de seigneur, qu'ils s'en retournent en paix chacun dans sa maison. Et le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit qu'il ne prophétise pas du bien à mon égard, mais du mal? Et Miché dit, c'est pourquoi écoutez la parole de l'Éternel, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui persuadera Akab, roi d'Israël, afin qu'il monte et qu'il tombe à Ramoth de Gala? Et on parla à celui-ci, disant ainsi. Et celui-ci et celui-là, disant ainsi. Et un esprit sortit et se tint devant l'Éternel, et dit, moi je le persuaderai. Et l'Éternel lui dit, comment? Et dit, je sortirai, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et l'Éternel dit, tu le persuaderas, et aussi tu réussiras. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes, que voilà. Et l'Éternel a commencé, prononcé du mal à ton sujet. Et Sédécias, fils de Caana, s'approcha et frappa Miché sur la joue et dit, par quel chemin a passé l'Esprit de l'Éternel d'avec toi pour te parler? Et Miché dit, voici, tu le verras ce jour-là, quand tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Et le roi d'Israël dit, prenez Miché et emmenez-le à Amon, chef de la ville, et à Joas, fils du roi. Et vous direz ainsi, dit le roi, mettez cet homme en prison et donnez-lui à manger le pain d'affliction et l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Miché dit, si jamais tu reviens en paix, l'Éternel n'a pas parlé par moi. Et il dit, peuple, entendez-le tous. Et le roi d'Israël monta et Josaphat, roi de Juda, à Ramoth de Gala. Et le roi d'Israël dit à Josaphat, je me déguiserai, j'irai à la bataille, mais toi, revêt-toi de tes robes. Et le roi d'Israël se déguisa et ils allèrent à la bataille. Et le roi de Syrie commanda au chef de ses chars, disant, ne combattez ni contre petit, ni contre grand, mais contre le roi d'Israël seul. Et il arriva que quand les chefs des chars vinrent vir Josaphat, ils dirent, c'est le roi d'Israël. Et ils l'entourèrent pour combattre contre lui. Et Josaphat cria, et l'Éternel le secourut. Et Dieu les porta à s'éloigner de lui. Et il arriva que lorsque le chef des chars virent que ce n'était pas le roi d'Israël, ils s'en retournèrent de sa poursuite. Et un homme tira de l'arc à l'aventure et frappa le roi d'Israël entre les pièces d'attache de la cuirasse. Et Akab dit au conducteur du char, tourne ta main et emmène-moi hors de l'armée, car je suis blessé. » Et la bataille se renforça ce jour-là, et le roi d'Israël se soutint sur son char vis-à-vis des Syriens jusqu'au soir, et il mourut vers le temps où le soleil se couchait. Et Josaphat, roi du Juda, s'en retourna, chapitre 19, dans sa maison, en paix, à Jérusalem. Et Jéhu, fils de d'Anani, le voyant, sortit au-devant de lui et dit au roi Josaphat, « Aides-tu aux méchants et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel ? À cause de cela, il y a colère de la part de l'Éternel. Cependant, il s'est trouvé de bonnes choses en toi. Tu as ôté du pays les Achères et tu as appliqué ton cœur à rechercher l'Éternel. » Et Josaphat habita à Jérusalem. Et de nouveau, il sortit parmi le peuple depuis Dan jusqu'à Beersheba, jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Et il établit des juges dans le pays, dans toutes les villes fortes de Juda. Et il dit aux juges, « Voyez ce que vous ferez, car ce n'est pas pour l'homme que vous jugerez, mais pour l'Éternel. Et il sera avec vous dans tout ce que concerne le jugement. Maintenant, que la frayeur de l'Éternel soit sur vous et prenez garde en agissant. » Verset 8 à Jérusalem, verset 8, Josaphat établit des lévites et des sacrificateurs. Verset 9, et il leur commanda disant, « Vous agirez ainsi dans la crainte de l'Éternel avec fidélité et d'un cœur parfait. » À la fin du verset 10, « Vous agirez ainsi et vous ne vous rendrez pas coupable. » Fin du verset 11, « Fortifiez-vous et agissez, et l'Éternel sera avec l'homme de bien. » Chapitre 20, « Et après ces choses, que les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux une partie des Moabites, vinrent contre Josaphat pour faire la guerre. Et on vint, on le rapporta à Josaphat en disant, il est venu contre toi une grande multitude du côté de la mer et de la Syrie. Voici, ils sont à Etsatson Tamar, qui est En-Gedi. Et Josaphat craignit et tourna sa face pour rechercher l'Éternel et proclama un jeûne en tout Juda. Et Juda s'assembla pour chercher secours de la part de l'Éternel. Et on vint aussi de toutes les villes de Juda pour rechercher l'Éternel. Et Josaphat se tint debout dans la congrégation de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu qui est dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ? Et en ta main est la puissance et la force, et nul ne peut te résister. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui avait dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël ? Et qu'il a donné à toujours à la semence d'Abraham, ton ami. Et ils y ont habité, ils t'ont bâti un sanctuaire pour ton nom, disant, s'il nous arrive du mal, épée, jugement, ou peste, ou famine, et que nous nous tournions devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, et que nous crions à toi à cause de notre angoisse, tu écouteras et tu sauveras. Et maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu ne permis pas à Israël d'entrer lorsqu'ils venaient du pays d'Égypte, car ils se détournèrent d'eux et ils ne les détruisirent pas. Les voilà qui nous récompensent en venant pour nous chasser de ton héritage que Dieu nous a fait posséder. Ô Dieu, ne les jugeras-tu pas ? Car il n'y a point de force en nous devant cette grande multitude qui vient contre nous. Et nous ne savons ce que nous devons faire, mais nos yeux sont sur toi. Et tout Juda se tenait devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Et l'Esprit de l'Éternel vint au milieu de la congrégation sur Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Jéhir, fils de Matania, le Lévite, d'entre les fils d'Azac, et dit, « Soyez attentifs, vous tous Juda, et vous habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous dit l'Éternel. Ne craignez pas et ne soyez point effrayés à cause de cette grande multitude, car cette guerre n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Demain, descendez contre eux. Et voici, ils vont monter par la montée de Tzitz, et vous les trouverez au bout de la vallée devant le désert de Jéruel. Ce n'est point à vous de combattre en cette affaire. Présentez-vous et tenez-vous là, et voyez la délivrance de l'Éternel qui est avec vous. Juda et Jérusalem, ne craignez pas et ne soyez pas effrayés. Demain, sortez à la rencontre et l'Éternel sera avec vous. Et Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent sur leur face devant l'Éternel pour adorer l'Éternel. Et les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Corites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu à grande et haute voix. Et ils se levèrent de bonne heure le lendemain pour sortir vers le désert de Tekoa, et comme ils sortaient, Josaphat se tint là et dit, « Écoutez-moi, Juda, et vous, habitants de Jérusalem, craignez l'Éternel, votre Dieu, et il vous affermira. Croyez à ses prophètes, et vous prospérerez. » Il tint conseil avec le peuple et établit des chantres pour l'Éternel et ceux qui louaient dans la sainte magnificence, disant, en sortant devant les troupes équipées, célébrez l'Éternel, car sa bonté demeura toujours. Et au moment où il commençait le chant de triomphe et de louange, l'Éternel mit des embûches contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir. Verset 25, Josaphat et son peuple vinrent et pillèrent leurs butins et trouvèrent parmi eux une abondance de richesses et des cadavres et des objets précieux, ils en ramassèrent pour à ne pouvoir les porter, et ils furent 3 jours à piller le butin, car il était abondant. Et le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Béraka, et là, ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi on appelait ce lieu-là du nom de la vallée de Béraka jusqu'à ce jour. Et tous les hommes de Juda et Jérusalem, Josaphat à leur tête, s'en retournèrent revenant à Jérusalem avec joie, car l'Éternel les avait réjouis au sujet de leurs ennemis. Et ils vinrent à Jérusalem, à la maison de l'Éternel, avec des luttes et des harpes et des trompettes. Et la frayeur de l'Éternel fut sur tous les royaumes des pays, quand ils entendirent que l'Éternel combattait contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos. Et Josaphat régna sur Juda, il était âgé de 35 ans lorsqu'il commença de régner, il régna 25 ans à Jérusalem. Et le nom de sa mère était Azub, fille de Shilki, et il marcha dans les voies d'Asa son père, ne s'en détourna pas, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel seulement. Les hauts lieux ne furent pas ôtés, et le peuple n'avait pas encore disposé son cœur à rechercher l'Éternel son Dieu. Et le reste des actes de Josaphat, les premiers et les derniers, voici, sont écrits dans les paroles de Jéhu, fils d'Anani, lesquels sont insérés dans le livre des rois de Juda. Et après cela, Josaphat, roi de Juda, se lia avec Akazia, roi d'Israël, qui agissait méchamment. Il s'allia avec lui pour construire des navires pour aller à Tarsis et construire les îles. Des navires à Tsongéber, et Eliezer, fils de Dodo, de Maréchal, prophétisa contre Josaphat, disant, « Parce que tu t'es allié avec Akazia, l'Éternel a détruit tes œuvres et tes navires, et les navires furent brisés, et ne purent s'en aller à Tarsis. » Et 21, « Et Josaphat s'endormit avec ses pères, et fut enterré avec ses pères dans la ville de David. » À la lecture, nous voyons que Josaphat, c'est un homme pieux, un roi pieux. Aussi, nous retrouvons ce que nous avons mis en tête comme manifestation de réveil, la sanctification. Au verset 6 du chapitre 17, Josaphat ôta de Juda, les hauts lieux et les Achères. C'est un roi qui essaie d'extirper l'idolâtrie de son royaume. L'idolâtrie accrochée au cœur du peuple élu depuis l'Égypte. Il y a un passage de Jérémie, d'Ézéchiel plutôt, qui dit que ils ont transporté des idoles de l'Égypte. Et même dans le désert, ils avaient le tabernacle de Moloch. C'est presque impensable de voir cette inclinaison du peuple élu à l'idolâtrie. Alors qu'ils connaissaient le vrai Dieu qui s'était révélé à eux comme le Dieu rédempteur qui les avait sortis d'Égypte, mais il y avait une telle influence des peuples d'alentour que ça imprégnait encore ce peuple élu, qui avait le grand privilège de connaître Dieu. Et nous avons le grand privilège de connaître Dieu. Et l'apôtre Jean nous dit, enfin gardez-vous des idoles. C'est pas du bois et du foin, du bois et de la pierre, mais ça peut être bien d'autres choses qui nous coupent de Dieu. Satan cherche à nous couper de Dieu et du Seigneur Jésus. Donc il y a des choses à ôter. Mais on retrouve le deuxième élément, se fortifier. Premier verset du chapitre 17, Josaphat se fortifia contre Israël. On voit cette recherche de Dieu, c'est dit plusieurs fois, il rechercha le Dieu de ses pères et marcha dans les commandements, non comme faisait Israël, le peuple des 10 tribus. Le paragraphe du chapitre 17, 7 à 10, nous montre qu'il avait le souci d'enseigner la voie de Dieu en Israël. Nous avons trois fois, il fait passer des Lévites qui enseignent dans les villes de Juda. Ils enseignèrent en Juda, ils enseignèrent parmi le peuple. Un retour à la loi de Dieu. Ça, c'est un signe du réveil aussi. On le verrait aussi très nettement dans le réveil de Josias quand ils ont retrouvé le livre de la loi dans le temple. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et dans l'histoire de l'Église, c'est un peu un autre sujet, mais je l'évoque quand même. Il y a eu des réveils, le grand réveil de la Réformation, quand on a retrouvé dans le livre la justification par la foi. Il y a le réveil du XIXe siècle, on a retrouvé en plus beaucoup de choses concernant l'Assemblée, le fonctionnement de l'Église, l'espérance de l'Église, la prophétie, au moins ça. On voit aussi au chapitre 19 qu'il a ôté, il a été trouvé, verset 3, il a été trouvé de bonnes choses dans le roi car tu as ôté. Et comme dans l'histoire de son père, l'épreuve vient. Il s'est sanctifié, il s'est fortifié, l'épreuve vient au chapitre 20. Cette épreuve, c'est encore une guerre, c'est une grande multitude qui vient d'au-delà de la mer, de la Syrie. Un ennemi qui vient le combattre. Et là, l'attitude de Josaphat est merveilleuse. Il assemble tout son peuple, c'est un homme responsable, un roi responsable de tout son peuple, il l'assemble pour chercher secours de la part de l'Éternel. Chapitre 20, verset 4. Ils vinrent de toutes les villes de Juda pour rechercher l'Éternel. Et Josaphat a une attitude digne. Il se tint debout devant toute la congrégation de Juda et de Jérusalem et dans la maison de l'Éternel, et il fait cette relativement longue prière du verset 6 au verset 12. Cette prière admirable. Quand un chef d'État, responsable de son peuple, il ne s'appuie pas sur ses propres forces, mais s'adresse à Dieu. Dans un moment de crise nationale, de crise très grave nationale dans laquelle nous sommes, nous, impliqués, si notre président Macron, se tenant devant tout le pays à la télévision, priait Dieu, demandait du secours à Dieu, bien, ça serait impressionnant. Je sais pas, je crois pas qu'il en soit là, mais eh bien c'est ce que Josaphat fait, c'est ce qu'il fait, en homme responsable. Et tout son peuple qui était rassemblé à Jérusalem entendait cette prière de cet homme pieux, de cet homme réveillé, sanctifié, fortifié. Quand on est réveillé, on cherche pas ces mots dans les prières. Non, non. On cherche pas les belles tournures. On lance un appel au secours vers Dieu. Et j'aime beaucoup la fin de sa prière. Nous ne savons ce que nous devons faire, mais nos yeux sont sur toi. De temps en temps, dans notre vie, faut le dire, on sait pas ce qu'on doit décider. La situation est très complexe. On ne sait pas. Non, honnêtement, on ne sait pas. Eh bien, il faut faire cette prière de Josaphat. Nous savons ce que nous devons faire, mais nos yeux sont sur toi. Et Dieu peut nous inspirer une bonne façon d'agir. C'est ça la piété de Josaphat. D'ailleurs, nous allons voir qu'elle transparaît même quand il s'est mis dans le pétrin. C'est un homme pieux, il reste pieux quand même. Même s'il s'est mis dans une voie qui n'était pas bonne. La piété, ça ressort. Il fait cette longue prière et il rappelle la grâce de Dieu envers Abraham, la semence d'Abraham, ton ami. Tu as été leur secours autrefois, ô Dieu. Et maintenant, tu vois, nous crions à toi à cause de notre angoisse. Écoute-nous, tu sauveras. Et Dieu ne peut pas être sourd à une prière comme ça. Il envoie un prophète. Il envoie un prophète, Jacques Caziel, pour les encourager. On voit dans ces réveils de ces rois l'importance de la parole prophétique. Nous avons maintenant la parole de Dieu, les prophètes de l'Ancien Testament, qui n'a pas été encouragé un jour ou l'autre par des paroles prophétiques dans les psaumes et dans les autres prophètes. Bon, le prophète, le don de prophétie, c'est pas tout à fait pareil dans l'Église. Nous ne présentons pas des choses nouvelles. Le prophète, il édifie, il encourage, il exhorte. 1 Corinthiens 14, c'est trois choses. Et c'est le don le plus important, le plus désirable. Le docteur, lui, il découpe la parole droit, il s'occupe pas de son application. Le prophète, il a une autre façon de faire. Il voit un besoin dans l'Église, il apporte la parole. Et le pasteur, il soigne les âmes. Donc, schématiquement, c'est ça les trois. Mais le plus désirable, dit Paul, c'est la prophétie, le prophète. Et là, on voit le rôle des prophètes dans ces rois. Ils sont là pour soutenir le roi et le peuple, pour lui parler. et le rassurer, ne craignez pas, ne soyez pas effrayés à cause de cette grande multitude. Cette guerre n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Ne craignez pas, ne soyez pas effrayés. Ce n'est point à vous de combattre en cette affaire. Présentez-vous et voyez la délivrance de l'Éternel qui est avec vous. Il y a des moments dans notre vie où nous devons agir. D'ailleurs, on le verra plus loin. Mais il y a des moments où nous devons laisser à Dieu tout faire. Si nous y mettons les mains, nous allons faire du mauvais travail. Il y a des moments où Dieu nous dit, ce n'est pas à toi de combattre en cette affaire. Oui, tu es dans une mauvaise posture, même au milieu de l'Église, hein, ça arrive. Ah oui, ça arrive. Et c'est pas les souffrances les moindres. Mais Dieu nous dit, non, non, je m'en occupe. Je m'en occupe. Tu ferais du mauvais travail. Et le combat est très étrange là. Parce qu'ils ne combattent pas avec des épées, mais avec un chant. C'est quand le chant commençait, le chant de louange à la gloire de Dieu, ils célèbrent l'Éternel, celui qui est bon, car sa bonté demeure à toujours. C'est au moment où le chant commence que la déroute et la panique est produite dans le camp ennemi. Je crois que un culte du dimanche matin, c'est une bonne façon de combattre l'ennemi. L'ennemi de nos âmes n'aime pas nos cultes s'ils sont fervents. Et je pense que ça nous est tous arrivé aussi personnellement. Nous avions des épreuves très lourdes. C'était difficile même de les oublier la nuit. Mais pendant le culte, on les oubliait. Et ça, c'est un miracle de Dieu. L'adoration. Célébrer la victoire de Jésus. La grandeur de Dieu. Satan n'aime pas ça. Parce qu'on chante sa défaite, quelque part. Si on chante la résurrection de Jésus, c'est ce qui dérange le plus le diable. Et c'est pour ça qu'il a inventé ce mensonge sur la résurrection, parce que il est comme Hérode. Hérode, il a entendu parler, il s'est dit, on circulait un bruit que Jean était ressuscité, c'était Jésus. Mais il a tremblé, Hérode, parce que c'était son ennemi ressuscite, ça c'est un peu troublant. Si c'est un ami qui ressuscite, c'est quel bonheur pour nous que Jésus soit ressuscité. Mais si c'est Jean qui est ressuscité, il commence à trembler. Il y a quelques décennies en Israël, une rumeur circulait qu'on avait retrouvé le tombeau de Jésus avec des ossements dedans. La belle affaire. La corde est un peu grosse là. Ça, on sait d'où ça vient ça. Parce que si on retrouvait la tombe de Jésus avec des ossements, nous pourrions partir d'ici avec nos deux yeux pour pleurer. Nous serions désespérés. Non, non, il est vivant. Et nous chantons la victoire de Jésus sur le diable le dimanche matin. Et la grandeur de Dieu est bien plus grande que la puissance de Satan. Et c'est au moment où le chant commence que la déroute dans les armées ennemies s'opère. Et le résultat de cette grande délivrance, c'est que, au verset 26, ils s'assemblèrent dans la vallée de Béraka, et là, ils bénirent l'Éternel. Quand tout est de Dieu, quand on n'a rien fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bénir Dieu. Et loue Dieu avec des instruments, avec le luth, la harpe, et se réjouir, c'est dit plusieurs fois, et son Dieu lui donna du repos. On voit que Josaphat a eu un comportement exemplaire comme responsable, comme roi responsable de son peuple. Il a donné une impulsion bénie à son peuple. Nous sommes... Je ne veux pas minimiser du tout le service des sœurs dans l'Église. La bonne marche d'une assemblée, c'est autant la piété des sœurs que la piété des frères. Bon. Mais il y a quand même, nous, on est aussi responsables. Mais j'ajoute encore que les frères qui s'expriment dans l'assemblée, qu'est-ce qu'ils feraient sans le soutien des prières des sœurs? Pas grand-chose de bon. Je veux valoriser le rôle des sœurs dans l'Église parce qu'elle a été dévaluée pendant des décennies dans nos assemblées. C'est pour ça que maintenant elles se rebellent. Elles en ont assez d'être dévalorisées. C'est pas moi qui ai inventé la chose. Mon épouse me l'a dit bien des fois dans ces décennies. Et c'est vrai, en tout cas sur notre plateau. La vie d'assemblée, c'était une affaire d'hommes. Eh bien non, c'est pas une affaire d'hommes. C'est une affaire de la piété des sœurs comme des hommes. Mais les frères sont responsables et de la marche de l'assemblée. Et on trouve là, dans Josaphat, un exemple de responsabilité. Une piété profonde de cet homme. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est au chapitre 19. Alors, nous avons vu que il a été dit, ce n'est pas à vous de combattre en cette affaire, mais tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Mais au chapitre 19, on a trois fois, verset 9, vous agirez dans la crainte de l'Éternel avec fidélité d'un cœur parfait. Fin du verset 10, vous agirez ainsi. Fin du verset 11, fortifiez-vous et agissez, et l'Éternel sera avec vous. Alors, on chante, peut-être un peu moins maintenant, mais on chantait ce cantique d'Henri Rossier, te laisser seul agir et nous tracer nos voies. Bon, à force de le chanter, moi ça m'irrite un peu ce cantique, parce que on peut facilement s'en servir d'oreiller de paresse de ce cantique. Et c'était pas du tout la pensée d'Henri Rossier. Non, non. Ah, Seigneur, converti-les tous. Moi, j'ai pas besoin d'aller distribuer des traités ou des évangiles. Non, converti-les tous. Mais non. Ah ben non. Comment se convertiront-ils si personne ne prêche? Un Corinthien, Romain 10. Bon, nous avons notre part. Hein. Donc, laisser seul agir Dieu, oui, dans certains cas. Mais attention à manier avec justement ce cantique. Là, Josaphat dit, agissez. Mais agissez dans la crainte de Dieu, pas n'importe comment. Jusque-là, nous avons ce roi Josaphat. Que des choses positives. C'est vraiment beau ce qu'il a fait là, jusque-là. Mais Josaphat, il a des points faibles. Et les points faibles, nous en avons tous. Hein. Moi, je connais mes points faibles, je ne connais pas les vôtres. Mais nous en avons tous, et son point faible, ce sont les associations. Et le corollaire des associations, ce sont les influences. Qui que nous soyons ici dans cette assistance, nous sommes tous sous influence. Si elle est bénie, très bien, ça peut nous soutenir. Si elle est mauvaise, ça peut nous entraîner loin. Et nous sommes tous aussi, alors ça c'est un mot à la mode, nous sommes tous des influenceurs. Alors, il y a trois domaines dans lesquels Josaphat c'est associé d'une façon négative. Et il en a reçu une mauvaise influence. Donc il y a le domaine sentimental, le domaine religieux et le domaine commercial, du business. Bon, commençons par le domaine sentimental. Il a marié son fils, bon, c'était à l'époque, c'était les parents qui mariaient leurs enfants, il a marié son fils Joram avec la fille de ce couple terrible, Akab et Jézabel. Bon, ça ne pouvait qu'avoir une influence mauvaise sur son fils, donc c'était un mauvais choix d'un père. Et ça nous étonne parce qu'un homme spirituel comme Josaphat, qu'il ait fait un mauvais choix comme ça avec pour son fils, c'est étonnant. Mais nous sommes étonnants parfois. Nous avons du discernement pour certaines choses et puis nous sommes aveuglés sur d'autres. Donc prudence. Il y a quelques années, il y avait un frère que vous avez bien connu, surtout à La Rochelle, puisqu'il a fait une période à La Rochelle, Guy Poujol. Et ce frère s'est beaucoup occupé des jeunes et disait aux jeunes, on ne choisit pas la famille dans laquelle on est né, mais on choisit ses amis. Et répétez aux jeunes, choisissez bien vos amis. Oui, pourquoi? Parce qu'ils vont vous influencer, les amis. Que vous en ayez conscience, que vous le vouliez ou pas, c'est pareil. Et alors, vos amis, le meilleur ami, celui qui est le plus proche de nous, c'est notre conjoint. Et il faut dire aux jeunes, choisissez bien votre conjoint. Bon, la beauté voit que l'outrage des gens arrive. On n'est pas toujours toute la vie beau ou belle. Mais par contre, un bon caractère et une piété nous suit jusqu'à la vieillesse. Il ne faut pas que les jeunes qui soient là se laissent piéger. Le bon caractère et la piété, c'est bien plus important que la beauté. Et donc, ce choix est assez important pour qu'on y consacre quelques années de prière. Oui. Pour que Dieu nous dirige. Parce que Dieu nous dirige. J'oserais dire, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais quand même j'ose le dire, qu'il faut bien choisir sa belle famille. Oui, parce que nos beaux-parents, ça compte dans la vie, hein. Ils nous accompagnent longtemps, nos beaux-parents. Si nous avons des beaux-parents pieux et sages, ils vont nous soutenir, ils vont nous aider spirituellement dans les coups durs de la vie que le jeune couple, immanquablement avec une famille, tout ça. Bon, ils vont prier pour nous, ils vont nous accompagner, ils vont nous aider. Bon, par exemple, en gardant les enfants pendant les accouchements, etc. Oui, mais peut-être même financièrement, s'il y a des gros déboires. Quoique, il faut de la sagesse, là, mais on ne sait jamais. Les beaux-parents, ça compte. Je sais bien qu'il y a des exceptions et qu'on peut trouver une belle fleur au milieu d'un roncier. Mais là, on risque quand même de se déchirer les habits et les mains. Moi, je préfère les cueillir une belle fleur au milieu d'un pré. Mais bon, il y a des exceptions. Le choix des amis. Alors, je pense que Guy Poujol ne voulait pas dire que les jeunes doivent avoir que des amis croyants. Non, je crois pas. Mais avec les amis non croyants, vous pouvez avoir des amis, des camarades, Bon, il faut aller aussi loin qu'on peut avec eux, mais pas plus. Et puis, vous savez, un jeune croyant, c'est pas une garantie non plus, hein. Non, non, c'est pas une garantie. Parce qu'il peut vous influencer d'une façon, bon, s'il est pieux, bien sûr, ça va, tout va bien, mais s'il n'est pas pieux, s'il s'est écarté lui-même du Seigneur, il va pas avoir une bonne influence sur vous. Donc, chrétien, c'est pas une garantie. Et puis, les influences, bon, les jeunes. À force, on rabâche aux jeunes, par exemple, qu'il faut attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un papier à la mairie, ça change quoi? Ben, à mesure qu'on entend ça, ben, on est influencé. Si on n'est pas dirigé par la parole de Dieu, on l'est par autre chose. Seulement, bon, c'est pas le monde qui doit nous dicter notre loi. Non, c'est la parole de Dieu. C'est par là que nous allons être préservés de beaucoup de choses. Mais bon, je ne vais pas continuer parce que le sujet des influences est un grand sujet. Et nous pouvons être influencés, mais Josaphat a été. Et d'ailleurs, il a essuyé un reproche cinglant. Aides-tu le méchant? Quoi? Aides-tu le méchant? Ouais, Dieu l'a repris. Dieu nous reprend. Il faut accepter qu'il nous reprenne quand nous sommes sous influence mauvaise. Le deuxième domaine, c'est le domaine religieux. Alors, évidemment, il a Akab, les beaux-parents de son fils, l'ont invité à Samarie. Et là, il y avait toutes sortes de prophètes, de faux prophètes. C'était une idolâtrie dans le royaume du Nord, impensable. Et là, dans ce chapitre, on a un coin du voile levé sur le monde spirituel. Tous ces faux prophètes qui essaient de convaincre, de faire monter Akab à Ramoth de Gala pour qu'il tombe. Et là, bon, il est en mauvaise posture, en mauvaise compagnie, Josaphat. Mais on voit sa piété qui ressort. N'y a-t-il pas un prophète de l'Éternel pour que nous le consultions? Si, si, il y a Michée, fille de Jimla, mais je le hais parce qu'il ne prophétise pas des choses, des bonnes choses. Et Akab n'aimait pas ce prophète parce que il n'écoutait pas la voix de Dieu. Il ne voulait pas l'écouter. Donc il a haïssé le prophète, évidemment. Mais Josaphat, il veut l'entendre à tout prix. À tout prix. Il ne veut pas aller à Ramoth de Gala tant qu'il n'a pas entendu Michée, fils de Jimla. Et puis, au final, Michée dit, si je remonte, si jamais je reviens en paix, l'Éternel n'a pas parlé par moi, peuple, entendez-le. On voit la force de ce prophète Michée, il est jeté en prison. Les mauvaises mœurs, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est où ce verset? En plein chapitre sur la résurrection. Mais qu'est-ce qu'il va faire là, ce verset? C'est étrange. Ça vous a jamais surpris la place de ce verset? Quel est le lien entre la mauvaise compagnie qui corrompt les bonnes mœurs et la résurrection? Eh bien, si, il y en a. Parce que quelques-uns des Corinthiens, pas tous, quelques-uns, niaient la résurrection des morts. Ces quelques-uns, dans l'assemblée à Corinthe, étaient sous influence. L'influence des sages grecs, Platon et compagnie. Les sages grecs disaient que Le mal est dans le corps et le bien dans l'esprit. Ah ben si le mal est dans le corps, il vaut mieux pas qu'il ressuscite, hein. Il vaut mieux qu'il reste dans la tombe. Oui, mais attention, si le mal est dans le corps, Jésus n'en aurait pas pris un, hein. Tout s'enchaîne. Non, non. Non, il n'y a pas de mal dans notre corps. Notre corps, par définition, il est neutre. Mais il est soit esclave du péché, soit esclave de la justice. Ça, c'est autre chose. Il est au service du mal ou au service du bien, notre corps, mais il n'y a pas de mal dans notre corps. Il faut être très clair, là. Et si le mal est dans le corps, donc il n'y a pas intérêt qu'il ressuscite, et si les morts ne ressuscitent pas, Christ n'est pas ressuscité, tout s'enchaîne, c'est le premier domino qui tombe et qui fait tout tomber. C'est pour ça que Paul s'élève vertement, énergiquement, contre ces quelques-uns qui étaient sous l'influence des sages grecs, mais qui pouvaient influencer toute l'assemblée. S'il y a une déviation dans l'Église, quelques-uns, quelques responsables, ça peut influencer toute l'Église. C'est les influences. Alors, les fausses doctrines, les hérésies, c'est depuis très longtemps dans l'Église. Déjà dans les premiers siècles, lors des persécutions, il y a l'arianisme, par exemple, un certain Arius, prêtre à Alexandrie, en 312, prêchait que Jésus n'était pas Dieu. Bon. Mais l'arianisme a empoisonné l'Église pendant plus d'un siècle. Les témoins de Jéhovah sont des ariens. Les musulmans sont des ariens. Et on peut être influencé par des fausses doctrines, des déviations doctrinales dans l'Église. Oh, il faut le discernement de l'esprit et le fil à plomb de la parole. Troisième domaine, c'est les affaires. On voit à la fin du chapitre que Josaphat s'est allié, encore une fois, son point faible, décidément. Il s'allia avec Acasia pour construire des navires pour aller à Tarsis. Et il construisit des navires à Esion-Guéber. Là encore, l'intervention d'un prophète, Éliézer, fils de Dodava, de Maréchal, prophétisa contre Josaphat, disant, parce que tu t'es allié avec Acasia, l'Éternel a détruit tes œuvres et les navires furent brisés. L'entreprise a capoté. Et là, dans ce sujet-là, des influences dans le business, dans les affaires, il faudrait peut-être aller interviewer un chef d'entreprise qui est associé avec un autre gars qui, bon, il n'en est pas une entorse à la vérité près. Il est un petit peu gouverné par la maxime, il n'y a qu'une chose interdite, c'est de se faire prendre. Les dessous de table et autre chose. Et il y a des frères ici qui seraient mieux placés que moi pour comprendre la chose que dans le monde des affaires, on demande aux jeunes ingénieurs d'être des loups. Et il faut bousculer les uns, les autres, pousser des coudes, faire des entorses à la vérité, peu importe, dans le monde terrible de la concurrence redoutable pour maintenir l'entreprise à niveau. Et ce chef d'entreprise, qui a un associé incroyant, vous direz certainement que c'est très difficile pour marcher droitement devant Dieu. Et si vous alliez le voir quelques mois après, peut-être qu'il avait dit, mais j'ai dû rompre avec cette société parce que c'était impossible de marcher en chrétien avec lui. Je pense à cette jeune fille qui était secrétaire de direction. Elle avait fait une conversion franche à Jésus-Christ. Et elle a dit à son patron, un jour, Maintenant, je ne pourrais plus dire de mensonge dans l'entreprise. Le patron lui a rétorqué, vous direz ce que je vous dirai de dire. 3 jours après, il travaillait dans le même bureau, et le téléphone sonne, et un tel voulait parler au patron. Elle va voir le patron, il dit, un tel veut vous parler. Ah ben si c'est un tel, dites-lui que je suis pas là. Elle prend le téléphone, elle dit, le patron vient de me dire de vous dire qu'il n'était pas là. 3 jours après, elle était à la porte. Et Fernand le Grand, qui raconte cette histoire, dit, je ne sais pas ce qu'il en est advenu de cette jeune fille, mais je sais que Dieu prend soin de ceux qui veulent marcher droitement devant lui. Elle était associée au patron, mais elle a résisté à l'influence du patron. Elle en a perdu sa place. Et il y a des jeunes ingénieurs qui ont perdu leur place pour marcher droitement avec Dieu. Si nous voulons marcher droitement avec Dieu dans les entreprises, nous risquons de souffrir. Moi, personnellement, j'ai perdu, enfin, c'était un peu différent, mais j'ai perdu 2 marchés, deux mairies en reliure, parce que j'ai donné à la fin de l'année le calendrier ou un Nouveau Testament. Je me disais, cette dame-là, je ne vais pas la revoir d'un an. Peut-être qu'elle ne sera pas en vie, moi non plus. Donc, tant pis, je lui donne. Mais elle ne m'a jamais rappelé pour la reliure de la mairie. Et Dieu a pris soin de nous. Marcher droitement dans le monde des affaires, c'est pas évident maintenant. Et Josaphat, bon, ça a été un fiasco, ces navires. Alors, vous voyez les 3 domaines des influences. Les influences, elles peuvent être bénies. On espère que dans cette journée, on a reçu des influences bénies qui vont nous suivre. Ce ne sera pas quelque chose, une belle impression, mais elles peuvent être aussi dangereuses. Là encore, le réveil sous Josaphat, des zones lumineuses qui nous encouragent, des zones d'ombre qui nous avertissent. J'en ai fini pour Josaphat. Un petit entracte dans lequel on peut chanter peut-être un cantique debout.